Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, 500 millions d'eurosceptiques. Bonjour Emmanuel Rengouat.
Bonjour.
Vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'Université de Montpellier, co-directrice du département de sciences politiques. Vous venez de publier « Enquête sur les opposants à l'Europe, à droite et à gauche, leur impact d'hier à aujourd'hui ». C'est publié aux éditions Le Bord de l'eau. Alors voilà donc à quoi on est réduite l'Europe aujourd'hui, servir de punching ball aux candidats aux élections du 26 mai. Certes, tous ne frappent pas avec la même force, uppercut pour les uns, pichenette pour les autres, mais l'Europe ne va plus de soi. Au mieux, il faut la réorienter, au pire, la quitter. Comment en est-on arrivé là? Bien sûr, la critique n'est pas nouvelle, elle accompagne même la construction européenne depuis ses débuts. Perte inacceptable de souveraineté, concurrence déloyale, on pense ici aux plombiers polonais, politique d'austérité imposée par Bruxelles, manque de transparence dans les décisions, la liste des récriminations est longue. Mais ce qui est édifiant, c'est de voir à quel point le discours critique de l'Europe a fini par se banaliser pour gagner jusqu'au rang des Européens les plus convaincus. Le temps de l'europtimisme béat, pour peu qu'il ait vraiment existé, est terminé. 500 millions d'eurosceptiques, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Emmanuel Rengouat. Et je précise que vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Montpellier. Pour commencer, je voudrais peut-être qu'on fasse un sort à l'intitulé de cette émission, puisque le terme même d'eurosceptique, c'est quelque chose que vous n'aimez pas beaucoup, que vous trouvez beaucoup trop péjoratif.
Oui, c'est avec plaisir que je veux bien lui faire un sort. Effectivement, moi, j'ai pas choisi de parler des eurosceptiques pour une raison qui est toute simple, qui est que pour moi, le terme eurosceptique, c'est un peu comme le terme populisme d'ailleurs. C'est un mot qui jette plus d'ombre que de lumière. Il éclaire pas trop la réalité parce qu'il a plusieurs défauts. Le premier, c'est que ça reste un stigmate politique, ça reste une insulte en fait. Personne se revendique eurosceptique. Donc quand on l'utilise, on participe un peu de cette lutte de classification. La politique, c'est quand même souvent une lutte de termes et d'attributions. Et puis surtout, le gros problème qu'il a, c'est qu'il assimile des critiques de l'Europe qui sont très très différentes, des critiques de gauche, des critiques de droite. Et c'est un terme qui ne donne pas à voir l'idéologie qu'il y a derrière la critique. Par exemple, c'est pas pareil de dire des nationalistes ou des antilibéraux ou des souverainistes.
Et donc vous préférez, vous, Emmanuel Rengouat, parler des opposants à l'Europe avec ses différents niveaux, selon effectivement l'endroit où on se situe sur l'échiquier politique. Parmi les plus farouches en France, on peut citer par exemple l'eurodéputé Florian Philippot, qui est le président des Patriotes. Il en a donné une des preuves le 1er mai dernier en allant décrocher le drapeau européen du Centre des impôts de Forbach. Il s'en expliquait le surlendemain. Lendemain sur Europe 1.
Pourquoi je l'ai fait? D'abord parce que ce drapeau, je le rappelle, était dans la Constitution européenne qui a été rejetée par les Français par référendum. Alors je sais que tout le monde s'est ensuite assis, enfin tout le monde, les parlementaires, hein, se sont assis sur ce vote des Français en faisant passer le traité de Lisbonne, ce qui est absolument scandaleux et ce que notre démocratie ne devrait pas pouvoir permettre. Mais je l'ai fait aussi parce que nous sommes à un centre des impôts et que je voulais mettre l'accent sur le fait que l'Union européenne nous pique 10 milliards d'euros par an.
Alors Emmanuel Rengouat, est-ce qu'on peut dire que Florian Philippot appartient, disons, à la catégorie des plus farouches opposants à l'Union européenne, en tout cas en France?
Oui, sans doute. Et ce qu'il fait là, en allant déchirer un drapeau ou enlever un drapeau, ça fait partie de la lutte de visibilité à laquelle participent beaucoup d'opposants. Les élections européennes et le thème européen, c'est un thème qui permet aux outsiders d'être visibles. Nicolas Dupont-Aignan avait, pour la campagne de 2012, déchiré un billet géant de 10 euros. Donc on est vraiment là-dedans, dans une critique très radicale pour les deux et une recherche de visibilité.
C'est un des rares, d'ailleurs, le président des Patriotes, avec sa formation, à vouloir encore quitter l'euro. Le Rassemblement National ne met plus cette question au devant de ses revendications. Il y a une autre formation politique, l'UPR de François Asselineau, qui, elle, plaide pour le Frexit, c'est-à-dire quitter les rangs de l'Union européenne, comme l'a fait, ou en tout cas comme tentent de le faire les Britanniques. C'est un projet quand même qui, aujourd'hui, paraît assez minoritaire, ce qui peut paraître paradoxal, je le disais au début de l'émission. Beaucoup de critiques de l'Europe, mais finalement l'idée d'en sortir, c'est une idée assez minoritaire. Emmanuel Rengouat.
Oui, et pour rebondir sur ce que vous disiez en début d'émission, il y a eu plusieurs moments en fait sur la manière dont on parle de l'Europe. Si on revient rapidement sur les 20 dernières années, on voit quand même que chacun a son discours politique, mais qu'il y a quelque chose de collectif dans la manière de parler de l'Europe. Et dans les années 90, l'Europe est encore assez plébiscité, on va dire. Il n'y a pas eu le référendum de 2005. Donc pour les opposants, on peut pas dire qu'on est contre l'Europe, donc on va dire qu'on est pour une autre Europe. Et à droite comme à gauche, le discours va se développer de dire on n'est pas eurosceptique, justement, on est pour une autre Europe. Et le moment où ça se retourne, il y a une vraie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une vraie banalisation de la critique de l'Europe. On peut dire que quelque part, après 2005, après le traité constitutionnel européen et son rejet en France, les opposants ont gagné la bataille des idées. C'est-à-dire que même les partis centraux, le PS, l'UMP, vont se dire pour une autre Europe. On voit en 2009 Nicolas Sarkozy et Martine Aubry reprendre le mot d'ordre altermondialiste « Une autre Europe est possible ». Et donc ensuite, dans la dernière décennie, en fait, il y a eu deux mouvements. Il y a eu une radicalisation au début de la décennie. Vous avez le Front National qui demande effectivement la sortie de l'euro et parfois qui est un petit peu ambigu sur la sortie de l'Europe. Pareil à gauche, hein, vous avez une France insoumise qui est très très revendicative. Et la position pro-européenne qui est plutôt abandonnée. Et finalement, elle va être récupérée par Emmanuel Macron. Stratégiquement, il a eu raison. Hein, c'est-à-dire qu'il reprend une position que personne n'assumait plus trop, qui est une position très pro-européenne. Et ce fait-là, plus le fait que le Front National échoue, on va dire, dans leur interprétation au deuxième tour de la présidentielle, ça a produit une remise en cause de la critique de l'euro. En fait, le Front National considère sans doute à raison hein, que c'est une critique trop radicale pour pouvoir élargir sa base électorale, que finalement les Français ne sont pas prêts à faire ce pas-là.
Peut-être aussi que le Brexit est passé par là.
Oui, on peut le penser, effectivement. Il y a à la fois une espèce de légitimation de la critique de l'Europe parce qu'elle monte en partie dans les droites radicales européennes. Et en même temps, le Brexit a sans doute effectivement un peu effrayé les critiques les plus radicales. Et donc on trouve aujourd'hui dans les programmes hein, des propositions de transformation institutionnelle, que ce soit de la part de la France insoumise comme du Front National, Rassemblement National, ce qui est un peu surprenant. On veut réformer les institutions.
Alors un des principaux ressorts, Emmanuel Rengoat, de la critique de l'Europe, c'est le souverainisme, c'est-à-dire c'est la défense des intérêts nationaux face à ce qui peut être considéré comme une menace du supranationalisme. Et vous expliquez bien dans votre livre que c'est une dimension qui prend particulièrement en France, notamment du fait du modèle politique français, marqué, écrivez-vous, par la tradition jacobine d'un État fort et centralisé, à même d'exercer la souveraineté nationale, c'est-à-dire qui est assez loin du modèle de gouvernance européenne.
Oui, alors il y a plusieurs éléments qui font qu'effectivement c'est un peu singulier en France. En France, on a une critique de l'Europe qui est en fait très précoce, dès les années 50, donc c'est la communauté européenne de défense, dès les premiers moments de la construction européenne en fait. On est un pays où il y a eu du débat et de la controverse sur la question européenne. Ce qui n'est pas du tout le cas par exemple en Espagne ou dans certains pays d'Europe centrale et orientale où tout de suite il y a plutôt une adhésion de l'ensemble des partis politiques. C'est parce qu'on n'a pas la même histoire. Et il y a plusieurs éléments et vous le mettez en avant effectivement. Par exemple, la construction de l'État, en France, on est très centralisé. En Allemagne, par exemple, on a une structure fédérale où on est plus habitué à jongler avec les niveaux de gouvernement régionaux, fédéraux. Et c'est moins compliqué de rajouter, on va dire, une feuille au millefeuille sans que ce soit péjoratif. En France, c'est un peu plus compliqué.
Il y a aussi une façon dont la France se voit et se vit dans le monde, c'est-à-dire la France, grande puissance, qui entend peser sur la marche du monde, alors a fortiori sur la marche de l'Union européenne, et qui ne va pas forcément accepter que l'Europe puisse prendre une tournure qui soit différente de la sienne.
Oui, tout à fait. Il y a cette idée que tous les pays n'ont pas eu la même histoire dans leur positionnement dans les relations internationales. La France, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, a eu un empire. Et c'est toujours, sur les siècles derniers, considéré comme une grande puissance mondiale. Donc pour la France, l'Europe ne signifiait pas devenir une grande puissance. Ça signifiait le rester, mais à condition de conserver le leadership. Et effectivement, la manière dont l'image de l'Europe s'est construite en France, ça a longtemps été une espèce de grande... L'Europe, c'était une grande France. C'était les valeurs françaises et la manière de faire française qu'on allait exercer à l'échelle européenne.
C'est ce qui va expliquer, par exemple, Emmanuel Rengoat, la politique de la chaise vide au milieu des années 60, pratiquée par le général de Gaulle, quand est évoqué le fait que les décisions ne seraient plus prises uniquement à l'unanimité, mais éventuellement à des majorités qualifiées, c'est-à-dire la possibilité pour la France de ne plus pouvoir s'opposer sur tous les dossiers.
Oui, tout à fait. Et cette idée qu'on a une place spécifique et que l'Europe ne peut pas se faire sans nous, c'est tout à fait ce qui justifiait, ce qui était derrière la politique du général de Gaulle et sa manière de gérer l'Europe. Mais on retrouve ça dans les discours d'Emmanuel Macron ou d'un Jean-Luc Mélenchon, cette idée qu'on a la force de transformer l'Europe puisqu'on est un pays fondateur, un des plus grands pays, et qu'on ne fera pas l'Europe sans nous.
Alors il y a aussi quelque chose qui tient à la fois au modèle politique, mais aussi à la construction de la France, qui est un État-nation. Là aussi, vous expliquez dans votre livre, Emmanuel Rengoat, que c'est ce qui différencie la France de certains autres pays, où il y a une désarticulation entre ce qui relève, on va dire, de la nation et ce qui relève de l'organisation politique du pays. C'est le cas, par exemple, des Flamands, des Écossais ou des Catalans, pour qui la notion de citoyenneté, en tout cas, est moins attachée à la nation et au pays auquel ils appartiennent. Ça va être un des ressorts, d'ailleurs, posera cette question de la citoyenneté du référendum de 1992 sur Maastricht, puisque le traité va créer une citoyenneté européenne. On se souvient que dans le camp du non, il y avait notamment Philippe Séguin. Il avait débattu quelques jours avant le référendum avec le chef de l'État de l'époque, François Mitterrand. C'était à la Sorbonne.
Le système du fédéralisme multinational, approuvé pratiquement partout dans le monde, nous sommes sur cette route. Et c'est à la lumière de cet objectif que le traité a été négocié.
Non. Pour beaucoup de pays, notamment la Grande-Bretagne, monsieur le ministre, cela fait trop souvent que je vous interromps, je vous prie de m'en excuser.
Je vous en prie, monsieur le président.
Mais ce n'est pas exact. Nombreux sont les pays membres de la communauté qui se refuseraient à une perspective fédéraliste.
Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous a pourtant expliqué que ce traité était à finalité fédérale.
Selon lui.
J'ai cru qu'il engageait le gouvernement français.
Pas selon, non. Le gouvernement français serait favorable à une issue de ce genre. Mais pas selon monsieur Melchior, pas selon monsieur le Premier ministre italien, pas selon quelques autres.
Emmanuel Rengouat, quand on pense à un débat politique assez fort, étendu autour d'un référendum sur les questions européennes, on va d'abord peut-être songer à ce qui s'est passé avec le traité en 2005, mais 1992, c'est quand même un moment presque fondateur pour l'opposition à l'Europe.
Oui, 1992, c'est un petit séisme politique à l'échelle française, hein, clairement. C'est un moment fondateur parce que c'est l'étape de création de l'Union européenne. Et parce que en France, mais comme ailleurs, c'est le moment où se cristallisent les clivages. Et à deux niveaux, au niveau des partis, donc de l'offre politique, c'est le moment où la droite française se déchire et où effectivement Philippe Séguin, qu'on entend, et Charles Pasqua se lancent dans une campagne. Ils seront rejoints par Philippe de Villiers. Donc c'est le début du grand mouvement souverainiste français. Hein, donc une opposition à l'Europe qui va se développer dans toutes les années 90 et qui va devenir assez forte à la fin des années 90 au point de battre les élections européennes de 99, la liste RPR. Et c'est aussi le moment où on considère que la population va commencer à se politiser et donner à voir, en tout cas, son désaccord sur la construction européenne. On considère souvent que il y a une espèce de consensus mou. On parle de consensus permissif, hein, des années 60 aux années 80 sur l'Europe. Et qu'à partir des années 90, les populations commencent à se forger des opinions et donc parfois à donner à voir leur désaccord.
Vous dites des années 90 que ce sont les années folles du souverainisme. Pourquoi les années folles ?
Bien parce que c'est vraiment le moment où on a plusieurs organisations partisanes souverainistes, surtout à droite, mais pas que, qui vont se développer en France et qui vont venir déséquilibrer l'équilibre politique, ou en tout cas concurrencer les grandes formations, notamment le RPR qui va devenir l'UMP. Alors c'est lié à un phénomène particulier qui est que l'élection européenne, c'est une élection qui favorise les outsiders, les challengers, et qui défavorise, ou est plutôt où les partis de gouvernement font pas des bons résultats. Et donc les années 90, c'est le moment de la montée en puissance de Philippe de Villiers, de Charles Pasqua, et de plein de petits partis comme Chasse, Pêche, Nature et Tradition, par exemple, qui vont naître et profiter de l'élection européenne pour se développer. Et donc effectivement, ils font des scores très importants, notamment aux élections européennes. C'est compliqué de se maintenir aux élections nationales, mais aux élections européennes, ils vont vraiment venir concurrencer et battre. En 99, la liste Pasqua-Villiers, justement, qui est la liste souverainiste, c'est le grand moment du souverainisme français, bat la liste du RPR menée par un certain Nicolas Sarkozy à l'époque, ce qui va donner lieu à une réforme de l'élection européenne, d'ailleurs. Donc, ce qui montre bien qu'il y a de la concurrence et que ça devient un peu dangereux pour les partis de gouvernement, finalement.
Alors, dans votre enquête sur les opposants à l'Europe, Emmanuel Rengouat, vous ne vous contentez pas d'expliquer et de faire la typologie des ressorts de cette opposition à l'Europe, mais vous vous intéressez également donc à l'impact que cela peut avoir sur la vie politique, en particulier les référendums de ratification des traités qui agissent, je vous lis, souvent comme de véritables catalyseurs. En comparaison, un bouleversement aussi symbolique pour la souveraineté nationale que le passage à l'euro est certes dénoncé, mais sans produire de campagne d'opposition partisane comparable à celle de 1992 et 2005. Ça veut dire qu'il y a aussi un phénomène de sorte d'effet d'aubaine que ces scrutins, ces référendums et peut-être aussi les élections européennes dans la vie politique nationale.
Oui, alors effectivement, il y a une différence entre les deux, mais vous avez raison, c'est deux moments où se cristallisent les clivages et où on parle beaucoup des questions européennes et où on voit monter les challengers sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'en France, il y a eu deux référendums, ce qui a fortement contribué à ce que la question européenne soit plus vite plus précocement politisée, discutée, clivante dans l'espace politique et aussi au niveau des électeurs qu'ailleurs, 92 et 2005. Et c'est intéressant de comparer les référendums et les élections européennes, parce que les élections européennes, on le sait, c'est des élections où il y a beaucoup d'abstention, où on considère qu'il y a peu d'enjeux, on considère que c'est des élections secondaires. À tort ou à raison, on pourra y revenir, mais en tout cas, on le voit, il y a les partis, les médias, les électeurs sont moins intéressés. Ceci dit, comparer les référendums et les élections européennes, ça montre que c'est pas une fatalité, parce qu'au moment des référendums, on a des taux de participation électoraux qui sont souvent proches de 80%, en 92 comme en 2005. Donc on voit qu'en fait, sur des questions ponctuelles, on peut avoir des campagnes de forte intensité et un intérêt des électeurs qui est très fort pour les questions européennes. Donc effectivement, il y a en partie, il y a un effet de contexte et d'aubaine, hein. Il y a aussi le fait que on a plus d'impact sur une question référendaire qu'au moment des élections européennes, mais il y a une vraie différence. Et vous avez raison, on peut en parler aussi, il y a un impact des élections européennes comme des référendums sur la vie politique. Ça va, il y a des partis qui vont se créer, qui vont avoir des succès ou des défaites, et qui vont ensuite pouvoir se maintenir ou pas. Donc ça a un impact en fait sur le pluralisme politique au moment des élections nationales et en conjoncture quotidienne tout simplement.
Et le pluralisme, on le voit à l'œuvre en ce moment, 34 listes présentes en France pour les élections du 26 mai. C'est assez énorme par rapport justement à cette critique de l'Europe. Cela dit, peut-être que parmi ces 34 listes, il y en a beaucoup qui œuvrent à la remise en cause plus ou moins importante de ce qu'est devenu l'Union européenne.
Oui, alors là aussi on a un petit... On peut faire un petit tour en coulisses quand même derrière. On est monté à 34 listes d'un coup. Il y a une explication. Je vous disais qu'après la grande victoire, le grand moment des souverainistes, donc de l'opposition, on va dire, droitière à l'Europe dans les années 90, il y a une réforme de l'élection. Et l'an dernier, le gouvernement Macron, d'Emmanuel Macron, a refait une réforme de l'élection européenne. En gros, on est revenu aux années 90. Hein, il y a juste une différence majeure, c'est qu'en 2014, en 2009, quand on votait dans 8 grandes régions. Maintenant, on vote sur la France. Ça veut dire qu'on vote plus que pour une liste par parti. La liste de La République En Marche, la liste du RN, la liste du LFI, etc., etc. Et derrière cette élection européenne, derrière cette réforme, on peut penser que c'est de la cuisine électorale, mais en fait, on voit qu'il y a des enjeux de concurrence nationale, hein, pour le coup, même si c'est l'élection européenne, qui sont très forts, parce qu'Emmanuel Macron a réformé, a rendu, on va dire, cette élection européenne nationale, parce que c'était plus adapté aux besoins de son parti, tout simplement. Il y a moins de militants, il y a moins de figures secondaires dans La République En Marche, qui auraient été capables de mener une liste dans chacune des régions en récoltant des voix. Donc on a fait une réforme. Donc ça permet à la fois au parti La République En Marche, sans doute, de faire un meilleur score, et à plein de petits outsiders de monter une liste sur un nom et qui fera une campagne nationale. Donc ça contribue à la démultiplication des listes et effectivement des opposants, vous avez raison.
Vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Rengouat, que cette critique de l'Europe, elle remonte à assez loin, c'est presque constitutif de la création. Au départ, c'était la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est devenu ensuite la CEE, puis l'Union européenne. Vous évoquiez le débat sur la CED, la Communauté européenne de défense, dont Raymond Aron disait, ça c'est ce que j'ai vu dans votre livre également, qu'il s'agissait de la plus grande querelle idéologico-politique depuis l'affaire de Dreyfus, et sur l'impact qu'a pu avoir ce débat. Écoutez ce qu'on disait. Alors, on est en plein débat. C'est en avril 1954. Le grand juriste Maurice Duverger.
Il y a tout d'abord une influence de la CED sur le jeu des partis par des divisions intérieures. Chaque parti a une moitié CED, une moitié anti-CED. Cela influe sur le jeu de la majorité. Mais il y a, deuxièmement, et c'est ça qui me paraît peut-être plus intéressant, une utilisation par les partis du thème de la CED. Une des choses qui me paraît le plus inquiétant depuis quelques semaines, c'est le fait que certains partis politiques essaient d'utiliser soit l'hostilité à la CED, soit la faveur à l'égard de la CED pour revenir au pouvoir. Alors ça, c'est tout de même quelque chose d'assez grave, que devant un problème qui, quelle que soit l'opinion qu'on a sur le fond, est un problème très important pour l'avenir du pays, on déforme systématiquement ce problème en disant « moi, je vous donnerai mes voix » pour faire voter la CED à condition que je rentre dans la majorité, ou moi je vous donnerai mes voix pour m'opposer à la CED à condition que je rentre dans la majorité.
Emmanuel Rengouat, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse donc, qui date de 1954 du juriste Maurice Duverger?
Oui, elle est assez juste, hein, et assez terriblement, il n'y a pas eu de transformation totale. Hein. Il y a des choses qui s'inscrivent vraiment dans la continuité. Par exemple, le fait que les élections européennes elles servent à se positionner pour une élection nationale future, c'est des choses qu'on voit encore. En 2009, vous avez Europe Écologie Les Verts qui se forme pour l'élection européenne, qui fait un gros score, donc qui se maintient en tant que parti. Et c'est arrivé plusieurs fois que des partis se créent pour l'élection européenne et quand ils ont un succès, ils continuent. C'était aussi ça le Front de Gauche, par exemple. Le mouvement chevènementiste aussi. Et ce succès aux élections européennes pour Europe Écologie Les Verts en 2009, ça lui permet ensuite d'enchaîner un succès au régional, de se positionner pour l'élection présidentielle et législative et d'obtenir, via les accords avec l'EPS, son premier groupe au Parlement, son premier groupe législatif. Donc c'est des choses qui existent encore. C'est lié à un problème plus général, qui est ce qu'on appelle la nationalisation des élections européennes, c'est-à-dire cette idée que, et on le voit bien là dans la campagne, l'élection européenne en France, aujourd'hui, c'est une élection nationale de mi-mandat, qui permet à chacun de mesurer ses forces, de se positionner pour l'élection suivante. Et ça crée un effet un peu paradoxal, hein, qui est qu'au moment de l'élection européenne, on a des vraies controverses nationales qui se mettent en place sur des vrais sujets, hein, qui viennent retravailler le clivage gauche-droite. La question de est-ce qu'on veut un système libéral ou pas ? Est-ce qu'on veut un gouvernement national ou supranational ? Donc des questions d'identité collective aussi, hein, des questions du rapport à la nation et à l'État-nation, vous le disiez. Donc des vraies questions, mais qui clivent à l'échelle nationale sans que se développent de vraies controverses supranationales, européennes, au moment des élections, qui seraient portées par des forces européennes et qui permettraient de faire un vrai débat, un vrai débat de quelle Europe on veut, une Europe de gauche, une Europe de droite. Et ça, c'est un vrai paradoxe de l'élection européenne qui est lié aussi à son mode d'organisation. C'est pas une fatalité, mais ça se répète depuis 40 ans, les 40 ans d'élection.
Alors on peut voir dans cette opposition à l'Europe, Emmanuel Rengouat, chez certains en tout cas, une forme d'opportunisme, de se servir de cette critique de l'Europe pour faire fructifier leur formation politique. C'est un reproche qu'a priori on ne peut pas adresser au parti communiste qui lui, historiquement et presque viscéralement, est opposé à l'Europe. C'est pas la même critique que la critique souverainiste, en tout cas c'est une autre forme de souverainiste. Là aussi vous le racontez dans votre livre que la CE elle va être dénoncée par le PC comme un projet qui est à la fois un projet atlantiste et néocolonialiste.
Oui, et effectivement ça permet de redire aussi que dès les années 50 en France on a deux partis majeurs qui sont opposés à l'Europe, c'est les gaullistes et c'est les communistes, donc c'est pas du tout nouveau. On parle beaucoup de la montée des opposants, mais c'est pas du tout nouveau en France qu'il y ait des forces politiques très importantes qui s'y opposent. Et effectivement les communistes ils ont une opposition de gauche à l'Europe dès le début qui se distingue de l'opposition gaulliste, donc qui va être sur hérité de la guerre froide, hein, clairement, donc dans un positionnement stratégique au vu des relations internationales, donc atlantiste et puis critique de l'ingérence des États-Unis. On va considérer effectivement que le risque est fort d'ouvrir l'Europe et le marché colonial français. Et c'est pas, il n'y a pas que les communistes d'ailleurs, hein, qui vont faire cette critique-là à l'Europe. Et puis il y a un élément intéressant dans l'évolution du discours communiste sur l'Europe qui est assez typique de l'évolution du discours de gauche ou de la critique de gauche de l'Europe. Pendant des décennies, jusqu'aux années 90, le PC est très souverainiste, mais un souverainisme de gauche. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, une des questions que l'Europe génère ou vient faire travailler en France, c'est la question du rapport à l'État-nation et à la nation. Et on a des critiques très très différentes. À droite, à l'extrême droite, on va défendre une nation très identitaire. On considère qu'on est, c'est le discours du Rassemblement National, hein, une communauté culturelle homogène. Donc c'est complètement fantasmé, hein, qui a montré à des millénaires avec une homogénéité de langue, de religion, etc. À gauche, c'est pas du tout ça. C'est un souverainisme où on va défendre l'État-nation français sur la base de la Révolution française, en considérant que c'est le cadre de l'État-nation qui permet de développer de l'égalité, qui permet de développer des lois sociales. Donc c'est l'association de l'État-nation et de l'État social.
Il y a aussi la dimension de... Il y a aussi, Emmanuel Rengouat, l'anti-germanisme, qui, alors qui est peut-être moins fort que ce que vous venez d'expliquer, mais qui est aussi une dimension importante de cette opposition à l'Europe, notamment à gauche, au PC, et qui est quelque chose qui reste encore assez présent, hein, par exemple chez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon.
Oui, tout à fait. Alors c'est très fort dans les années 50, hein, l'anti-germanisme, on sort de la guerre. Donc c'est pour ça aussi que cette communauté européenne de défense, elle est rejetée. En fait, c'est l'idée d'armée européenne qui fait très peur. On a peur de réarmer l'Allemagne. Et c'est fort au PC, mais bien ailleurs, hein, au sein des socialistes, dans la SFIO, et même à droite, on est très réticent à cette armée européenne. C'est symbolique aussi, hein, de perdre l'armée française à ce moment-là. Mais cet anti-germanisme, il perdure dans l'espace politique français et on en a entendu des réminiscences au fil des années 90. Hein, il y a une sortie célèbre de Jean-Pierre Chevènement contre Joschka Fischer au début des années 2000, très très dure, hein, qui met en lien la position allemande avec l'histoire du Troisième Reich. Et il y a encore effectivement des sorties parfois de Jean-Luc Mélenchon contre la puissance économique de l'Allemagne, mais qui là aussi s'inscrivent dans cet héritage d'anti-germanisme qui est... Bon, qui est peut-être moins, moralement ajusté, je ne sais pas comment dire ça.
Alors, disons-le comme ça, alors, du coup. Alors, on a beaucoup parlé de l'opposition à l'Europe en France, mais comment est-ce que cette opposition se vit ailleurs sur le terrain? Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Eh bien, c'est le travail qu'a effectué la journaliste Marion Van Runtergem.
Oui, Marion Van Runtergem, c'est une ancienne grande reporter au Monde qui a parcouru pendant plus de 30 ans les pays européens et qui publie ces jours-ci un récit consacré au désamour pour les institutions de l'Union européenne qui se vérifie partout sur le vieux continent et en particulier dans les pays de l'Est qui ont rejoint l'UE au moment de l'élargissement de 2004. On peut citer la République tchèque ou la Hongrie. Alors, on peut se demander pourquoi, puisque ces pays se voulaient les champions du libéralisme politique à la chute du mur de Berlin. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Il y a un mot qui revient souvent dans mon livre et que je pense qu'il exprime très très fortement ce qui s'est passé, c'est celui de ressentiment. Et c'est un ressentiment qui a gagné beaucoup les pays de l'Est, de l'ancien bloc soviétique, parce que justement à la chute du mur, il y avait une forme d'espoir fou, d'illusion que voilà, ça y est, ils avaient enfin rejoint le bloc de l'Europe et de la démocratie européenne à laquelle ils auraient dû toujours appartenir, parce que c'est l'histoire qui les a injustement privés et mis de l'autre côté du mur. Donc il y avait un espoir fou, et puis fatalement, passer d'une économie dirigée à l'économie de marché, c'est brutal, c'est violent. Donc il y a eu du déclassement, il y a eu de la violence sociale, il y a eu etc. Ils étaient évidemment socialement très en retard, économiquement très en retard par rapport à nous. Donc ça a créé des différences salariales et du coup entraîné des situations de dumping social, de dumping fiscal que là l'Union européenne n'a pas su éviter. Elle aurait dû davantage mettre en œuvre des moyens pour harmoniser fiscalement, socialement plus vite. Mais bon, c'est très difficile et on peut refaire l'histoire.
Et ce désamour des peuples européens a aussi été exploité, instrumentalisé politiquement par des leaders populistes, des réseaux d'influence de Washington à Moscou. C'est particulièrement le cas depuis quelques années. Dans son ouvrage, Marion Van Runtergem cite le très controversé Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, qui s'engage très activement dans la campagne des élections européennes pour les partis eurosceptiques.
Steve Bannon a très bien compris qu'il y avait un mélange, une sorte de purée, comme ça, un terreau populiste absolument génial, qui était à la fois un ressentiment très partagé, une insécurité culturelle de la part du monde occidental blanc, en fait, qui se sent un peu menacé par des migrations potentielles un peu partout, et puis ce déclassement, et puis les réseaux sociaux qui peuvent génialement et affreusement phagocyter, influencer les élections, ce que Steve Bannon ne s'est pas privé de faire. Et il a très bien compris que le Brexit était un premier signe en Europe de quelque chose qui pouvait se retourner. Il a bien compris, a succédé au Brexit très peu après l'élection de Donald Trump, puis toute une déferlante en Europe, aussi bien la réélection de Viktor Orban, à l'arrivée de Salvini, etc. Enfin, donc il y a un train comme ça qui s'est mis en marche, et comme par hasard, les amis de Steve Bannon, les proches amis, c'est le Brexiteur en chef Nigel Farage, c'est Salvini, c'est Poutine, c'est Orban, etc. Et il a un bureau à Bruxelles, il a un bureau en Italie, et il entend bien essayer de créer une sorte d'unification, d'unité à toutes ces droites nationalistes populistes. Droite et gauche d'ailleurs.
Voilà, Marion Van Runtergem, journaliste qui publie « Mon Europe, je t'aime, moi non plus ». Et on renvoie les auditeurs à la page internet de l'émission politique pour écouter l'intégralité de son interview.
Une courte réaction, Emmanuel Rengouat.
Oui, bah la seule réponse qu'on peut avoir à ça, et c'est ce que disait l'interviewé sur le fait que l'Europe de centrale orientale est déçue, c'est un vrai discours fort sur qu'est-ce que c'est les valeurs, qu'est-ce que c'est le modèle social, qu'est-ce que c'est le modèle économique qu'on veut en Europe. Donc c'est ça qu'il faudrait pour ces élections européennes, pour qu'il y ait un vrai débat.
Et il reste une semaine pour faire ce débat. Voilà, je vous remercie beaucoup Emmanuel Rengouat. Enquête sur les opposants à l'Europe, c'est donc le livre que vous venez de publier aux éditions Le Bord de l'Eau. Je rappelle que vous étiez en duplex des studios de France Bleu à Montpellier. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyret Legras, avec à la prise de son aujourd'hui Alexandre Dang et Valentin Bobinet. À 12h45, vous retrouverez la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 dans Du grain à moudre. Et dans un instant, ce sera le journal de 12h30 sur France Culture.